On est lundi, il est midi et demi, et vous écoutez France Culture. Et tout de suite, c'est le journal de Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Le président Emmanuel Macron est attendu aujourd'hui à Vilnius où les dirigeants lituaniens attendent son soutien clair à la fois contre le régime autoritaire de son voisin biélorusse mais aussi les pressions exercées par Moscou.
Dans votre journal également, comme attendu, à l'issue des élections sénatoriales organisées hier, la droite conforte son ascendance historique au palais du Luxembourg.
Oui, les élus, les républicains et ceux de l'Union centriste ont raflé la majorité des sièges renouvelés.
Une potion budgétaire 2021 dédiée à la relance.
Ou quand les déficits attendront. Ce matin était présenté le projet de budget du gouvernement pour l'année prochaine.
Les combats se poursuivent dans la région séparatiste du Nagorno-Karabakh, théâtre d'un conflit récurrent entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan.
Le dernier bilan fait état d'au moins 39 morts, une escalade qui suscite l'inquiétude sur la scène internationale. Nous irons également aux États-Unis où des révélations explosives sur les déclarations fiscales du président Donald Trump font irruption dans la course à la Maison-Blanche. Enfin, l'arrêt de Veolia sur son concurrent Suez donne lieu depuis cet été, une bataille de plus en plus âpre. Or, la date butoir du 30 septembre approche. Invité de la rédaction dans une vingtaine de minutes, Estelle Brakliyanov, directrice générale adjointe de Veolia. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera bien sûr la grande table des idées.
Eh bien, nous retournerons à notre tour aux États-Unis pour parler du vote qui va avoir lieu cette année. La question identitaire va-t-elle peser dans l'élection ? Trump parviendra-t-il à nouveau à politiser la colère et le sentiment d'insécurité culturelle, le ressentiment de ceux qu'elle appelle les pauvres petits blancs? C'est l'américaniste et l'historienne Sylvie Laurent qui sera avec nous dans la deuxième partie de l'émission.
Merci et à tout à l'heure. En exigeant la création d'un gouvernement de mission libanais avant le mois d'octobre, Emmanuel Macron avait lui-même reconnu qu'il prenait un pari risqué, un pari perdu en l'occurrence après la démission hier du Premier ministre désigné, Mustapha Adib, lequel aura échoué à former un gouvernement. Les rodomontades du président français n'y auront rien changé, pas plus d'ailleurs que la menace de possibles mesures punitives. Un camouflet en somme à la hauteur des attaques en règle lancées hier par Emmanuel Macron contre des dirigeants libanais accusés, je cite, de trahison. J'ai honte, a même lancé le chef de l'État depuis l'Élysée. Pas de quoi pour autant le dissuader d'intervenir et d'investir la scène internationale. Le président français est attendu aujourd'hui en Lituanie avant de se rendre en Lettonie où les dirigeants des deux États baltes attendent son soutien clair contre le régime du voisin biélorusse. Reste qu'en affichant clairement la couleur des hier, Alexandre Loukachenko doit partir. On imagine assez mal Emmanuel Macron en mesure de jouer les médiateurs entre le pouvoir autoritaire de Minsk d'un côté et l'opposition de l'autre. Dès lors, que faut-il espérer de cette visite? Élise Delève a posé la question à notre confrère Thomas Distria.
Oui, évidemment, ça fait parler. Les gens sont contents, les gens apprécient le soutien. Emmanuel Macron, hier, qui s'est exprimé sur Alexandre Loukachenko, ça a été très apprécié. Mais comme disent les Biélorusses que j'ai pu rencontrer, ce n'est pas vraiment ça qui va changer la situation et les arrestations et les affrontements avec les forces de l'ordre sur place. Il est question d'une rencontre entre Emmanuel Macron et Svetlana Tsikhanouskaya, la candidate principale de l'opposition qui est en exil à Vilnius. Ils attendent beaucoup d'une rencontre. Et qu'est-ce qu'ils attendent concrètement de cette rencontre? Ils attendent plus que des sanctions économiques. Ils ne pensent pas que des sanctions économiques soient efficaces face à un régime armé.
Ça fait 7 week-ends là, qu'il y a des manifestations. Est-ce que l'ampleur des manifestations est toujours la même? Est-ce qu'il y a plus de monde, moins de monde? Est-ce que les slogans ont évolué? Vous avez suivi ça toutes ces dernières semaines?
Évidemment, les slogans s'adaptent à l'actualité. C'est-à-dire que la semaine dernière, on avait beaucoup de slogans qui appelaient à la non-ingérence de Vladimir Poutine dans le dossier biélorusse. Hier, c'était évidemment en réaction à l'inauguration secrète d'Alexandre Loukachenko en milieu de semaine. Les manifestants ont d'ailleurs inauguré leur propre candidate, Svetlana Tsikhanouskaya. D'ailleurs, c'est très intéressant cette manière qu'ont les manifestants de s'accaparer, de transformer, de réagir avec audace, avec créativité à l'actualité. Par exemple, on a vu en milieu de semaine, au moment de l'inauguration d'Alexandre Loukachenko, les gens descendre dans la rue avec des couronnes pour se moquer du président au pouvoir depuis 26 ans. On a beaucoup de choses comme ça.
Emmanuel Macron, toujours lui, a fait part hier de sa disponibilité, là encore, pour contribuer à un règlement durable du conflit qui, depuis près de 30 ans maintenant, oppose l'Azerbaïdjan à l'Arménie. Un conflit qui, depuis 24 heures, a dégénéré dans la région séparatiste du Nagorno-Karabakh, faisant au moins 39 morts. Quand l'Arménie accuse son ennemi historique d'avoir attaqué la région séparatiste, L'Azerbaïdjan dénonce de son côté une agression qu'elle a promis de vaincre. En clair, chacun des deux camps affirme avoir répliqué aux provocations de l'autre. Reste que ces combats nourrissent en réalité d'autres tensions. Et pourquoi ? Tout d'abord parce que la Turquie a fait de l'Azerbaïdjan, pays turcophone, riche en hydrocarbures, son principal allié de la région. Et d'autre part parce que l'Arménie, dont l'ennemi est aujourd'hui beaucoup plus riche, a rejoint, elle, des alliances politiques, économiques et militaires dominées par Moscou. Reste désormais une question, Marie-Pierre Véraud, même si les combats qui font rage actuellement sont certes les plus importants dans la région depuis 2016, y a-t-il des raisons de s'inquiéter davantage ?
Eh bien, ces affrontements sont en tout cas en effet les plus violents depuis 2016, lorsque une précédente flambée avait fait plus d'une centaine de morts. Et ce qui inquiète en cet automne, c'est d'abord le déploiement de forces. L'Azerbaïdjan a multiplié les dépenses militaires fort de la manne pétrolière et aligne un impressionnant arsenal. Avions de chasse, hélicoptères, drones de combat, blindés. Le régime de Bakou semble déterminé à reprendre les territoires perdus lors de la guerre du début des années 90, qui avait fait quelques 30 000 victimes. Depuis quelques semaines, la rhétorique est enflammée à Bakou. Il y a même eu des manifestations cet été demandant que soient récupérées les terres perdues par l'Azerbaïdjan. Dans les deux camps, le sujet est en fait extrêmement sensible. Les soldats considérés comme des martyrs dont le souvenir est entretenu et la flamme nationaliste reste très vive, au point qu'en près de 30 ans, aucune médiation n'a jamais pu faire entendre raison aux frères ennemis que sont devenus ces deux anciennes républiques soviétiques, l'Arménie et l'Azerbaïdjan. La propagande de guerre est en train action en même temps que les armes et l'accalmie ne semble pas à l'ordre du jour. Yerevan accuse même ce matin la Turquie d'avoir dépêché plusieurs milliers de combattants depuis la Syrie pour combattre aux côtés des soldats azéris. Ankara dément mais assure Bakou de son soutien. Le président turc Erdogan entend en fait affirmer son rôle dans la région et se retrouve en porte-à-faux avec Moscou lié à l'Arménie par un pacte de défense. Moscou et Ankara qui détiennent les clés de ce conflit mais pour l'heure les appels au calme du Kremlin n'ont pas été entendus.
Alors tandis qu'Emmanuel Macron, on l'a vu, s'agite sur tous les fronts de la scène internationale en France, son mouvement, jadis porteur d'espoir, encaisse mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle. Comme attendu, à l'issue des élections sénatoriales organisées hier, la majorité de droite et du centre sont sortis renforcés. Ou quand la droite renoue avec la victoire, s'est félicité ce matin le patron des Républicains, Christian Jacob. Quant aux écologistes, ils obtiennent la formation d'un groupe au sein du Palais du Luxembourg, une véritable renaissance. Pierre Neveu, bonjour.
Bonjour Thomas.
En clair, ces élections sont marquées globalement par une grande stabilité, ce qui signifie surtout, Pierre, que la Chambre haute, tenue par la droite, demeure le bastion de ces territoires que la République en marche, à elle, échoué à séduire.
Ces élections sénatoriales sont la parfaite traduction du scrutin municipal de mars dernier, où la droite avait confirmé son ancrage territorial et où les écologistes avaient ravi les grandes métropoles. Au lendemain de ce scrutin, les Républicains peuvent se féliciter d'avoir gagné 10 sièges dans la Haute Assemblée. Ils sortent renforcés avec leurs alliés de l'Union centriste. Deuxième groupe au Sénat, les socialistes perdent des sièges, mais se satisfont, eux, des unions passées localement avec leurs alliés communistes et écologistes pour tirer leur épingle du jeu. La poussée verte se confirme avec l'entrée au Palais du Luxembourg de 6 nouveaux sénateurs écologistes venus du Rhône notamment et de Gironde. Des écologistes qui franchissent la barre symbolique des 10 élus, ce qui leur permet de constituer un groupe. Ils auront plus de moyens, plus de temps de parole et donc l'occasion de peser sur les débats. Malgré la faiblesse de son implantation locale, La République En Marche sauve l'essentiel. Son chef de file, François Patria, est réélu, comme sont élus deux ministres qui faisaient campagne, Sébastien Lecornu et Jean-François Lemoyne, mais ils ne siégeront pas dans l'immédiat. Alors au lendemain de ce scrutin, c'est l'heure des alliances et des tentatives de débauchage pour constituer des groupes politiques. Un troisième tour important, notamment pour La République En Marche, qui voudrait bien composer une maison commune au Sénat avec des sénateurs qui soutiennent directement l'action du chef de l'État.
Alors si les résultats des sénatoriales font donc émerger un clivage saillant entre la droite et la gauche et remettent une fois de plus en lumière le manque d'implantation locale du parti présidentiel, gauche et droite, là encore, se sont partagés hier soir, Pierre, 6 sièges de députés lors du second tour d'élection législative partielle, cette fois-ci pour lequel La République En Marche n'avait pas réussi à qualifier de candidat.
Oui, La République En Marche avait été éliminée dès le premier tour. Dans ces législatives partielles, la gauche et la droite se partagent les circonscriptions. 3 sièges pour les Républicains, dont celui des Yvelines, laissé vacant par Nadia Hay, nommée ministre ministre délégué à la ville. 3 sièges également pour le PS et la gauche unie. Le PS l'emporte notamment dans le Val-de-Marne, dans un duel face aux écologistes. Isabelle Santiago est largement élue face à Sandra Rugol, secrétaire nationale adjointe d'Europe Écologie Les Verts. Alors ce que l'on retiendra de ce dimanche pluvieux, c'est que les forces traditionnelles de droite et de gauche se sont mises en ordre de bataille pour l'emporter sur le thème du rassemblement et de l'ancrage territorial. Et cela sonne comme un nouvel avertissement pour le parti présidentiel dans la perspective des élections départementales et régionales du mois de mars 2021.
Merci Pierre Neveu. Soutenir la reprise de l'économie française mise à terre par l'épidémie de Covid-19 en ouvrant grand les vannes de la dépense. Voilà donc la stratégie choisie par le gouvernement dans son projet de budget pour 2021 après les plus de 460 milliards d'euros mis sur la table cette année. Pour faire face à la crise sanitaire, le projet de loi de finances présenté ce matin par le gouvernement sera centré sur un plan de relance fixé, lui, à 100 milliards d'euros. Marie Viennot, bonjour.
Bonjour.
Alors ce projet de budget annoncé début septembre était pour l'essentiel connu. Qu'a-t-on appris de nouveau, Marie, avec sa présentation ce matin au Conseil des ministres?
Alors ce qui est notable, c'est qu'à part la mission anciens combattants, les 32 autres missions qui correspondent le plus souvent au périmètre des ministères sont, par rapport à 2020, stables, voire en nette augmentation pour leurs moyens. La défense, 1,5 milliard de plus. L'enseignement scolaire et l'écologie, autour d'un milliard en plus. La justice, 600 millions. La sécurité, 200. Et la culture, oui, 100 millions d'euros. Ce qui complique quand même considérablement les comptes, c'est que le plan de relance va octroyer des moyens supplémentaires sur projet et qu'on ne peut donc pas dire aujourd'hui qui aura quoi précisément. On en sait plus sur le financement du plan de relance lui-même. En 2021, l'État y consacrera 22 milliards d'euros et l'UNEDIC et la Sécurité sociale y participeront à hauteur de 8 milliards et demi. 4 milliards 400 millions d'euros sont budgétés en 2021 pour les exonérations de cotisations sociales des secteurs touchés par la crise. Mais en vérité, c'est un montant difficilement anticipable. Pour 2020, la dernière loi de finances avait prévu 3 milliards 900 millions d'euros pour les exonérations de cotisations qui sont versées à la Sécurité sociale. Et ce devrait être finalement 11 milliards d'euros. Il y a donc là une inconnue de taille aussi pour 2021. Donc plus de dépenses, des baisses d'impôts importantes, donc moins de recettes, ce sera au final plus de dettes. L'État devra emprunter 282 milliards l'an prochain sur les marchés financiers. Mais Bruno Le Maire, le ministre des Finances, considère que c'est de la bonne dette, car de la dette pour investir.
La dette que nous contractons aujourd'hui, qui va amener un niveau de dette publique supérieur à 117% en 2021, c'est de l'investissement. Dépenser de l'argent pour le chômage partiel, c'est de l'investissement sur les compétences. Nous mettons beaucoup d'argent sur la rénovation énergétique des bâtiments. C'est de l'investissement pour la planète. La deuxième chose que je veux répéter, c'est qu'une dette se rembourse, sera remboursée par la croissance. Elle doit être remboursée en deuxième lieu par un principe de responsabilité sur les finances publiques. Enfin, la troisième manière, c'est de poursuivre les réformes de structure. Et vous connaissez aussi ma conviction, c'est que la réforme des retraites reste indispensable.
Alors au final, les intérêts de cette dette pèseront 36 milliards d'euros dans le budget, ce qui en fait le troisième poste de la nation derrière l'éducation et la défense.
Merci Marie Viennot. La pandémie de Covid-19 démarrée fin 2019 en Chine, avant de se répandre dans le monde entier, a fait plus d'un million de morts selon un nouveau décompte officiel établi ce matin. Alors depuis l'apparition de l'épidémie, bien entendu, les équipes du monde entier se sont lancées dans une véritable course contre la montre pour tenter de mettre au point un vaccin. On estime à 200 le nombre de projets actuellement en concurrence. Mais seule une petite quinzaine de vaccins en réalité ont été testés sur l'homme. En France, les chercheurs les plus avancés dans le domaine travaillent chez le groupe pharmaceutique Sanofi ou bien à l'Institut Pasteur. Et là-bas, l'une des pistes est particulièrement innovante puisqu'il s'agit d'un vaccin à ADN, une technique d'arrache légal qui n'a encore jamais été utilisée chez l'homme.
L'avenir de ces vaccins est peut-être très prometteur, mais pour l'instant, aucun n'est commercialisé. Christophe Denfert, le directeur scientifique de l'Institut Pasteur, revient sur leur mécanisme.
Le principe de cette vaccination, c'est de faire rentrer cette molécule d'ADN dans des cellules qui sont situées au site de l'injection. Et ces cellules vont reconnaître la molécule d'ADN, ce qu'on appelle la transcrire en une molécule d'ARN, et à partir de cette molécule d'ARN, produire la protéine de spicule. Du coup, ça va permettre en fait que la protéine de spicule soit reconnue par le système immunitaire et que des anticorps soient produits. Donc nos cellules vont être finalement l'usine qui va produire la protéine du coronavirus qui sera reconnue par le système immunitaire.
Ça fait une vingtaine d'années que les chercheurs s'intéressent à cette technique, mais seuls 4 vaccins similaires sont autorisés pour les animaux exclusivement, et notamment les saumons d'élevage. La pandémie a relancé les recherches sur l'homme. L'entreprise Moderna aux États-Unis est très avancée. Elle a commencé à vacciner des volontaires, ce qui amène l'Institut Pasteur, dont les résultats sur l'animal sont pourtant prometteurs, à se demander s'il faut ou non s'engager à présent dans un essai clinique sur l'homme.
Ils seront très probablement plusieurs dizaines de millions de téléspectateurs rivés à leur écran demain soir pour le premier débat, certains diront le premier duel entre les deux adversaires de la prochaine présidentielle américaine, Donald Trump et Joe Biden. Un événement spectacle majeur, bien sûr, même si son impact sur le scrutin devrait toutefois rester limité compte tenu du climat actuel ultra polarisé et ne comptant en réalité que de rares indécis. En revanche, ce débat sera à n'en pas douter l'occasion pour le candidat démocrate d'insister sur les révélations explosive publiée hier par le New York Times après s'être procuré les données fiscales sur plus de 20 ans concernant l'ex-magnat de l'immobilier. Le quotidien publie une enquête dans laquelle on apprend que Donald Trump, qui s'est toujours refusé à rendre publiques ses déclarations, a payé seulement $750 d'impôt fédéral sur le revenu en 2016, l'année où il a remporté la présidence, idem en 2017, mais pire encore, le milliardaire n'a payé aucun impôt durant 10 des 15 années précédentes. Alors bien sûr, le principal intéressé a aussitôt dénoncé des informations bidons, quoi qu'il en soit, Valérie Cantier. Voilà donc un sujet qui risque d'électriser un peu plus encore cette campagne électorale.
Selon un intervenant de CNN, c'est l'affaire la plus importante de ces 5 dernières années. Pourquoi ? Eh bien parce que comme candidat en 2016, Donald Trump a tout fait pour ne pas révéler ses feuilles d'impôt. Et en tant que président depuis 4 ans, il s'est battu encore plus ardemment pour éviter que ses avis d'imposition soient publiés. Donc c'est une information dont on va entendre parler pendant des semaines puisque le New York Times s'est procuré tous les documents officiels. Donald Trump n'a payé que $750, c'est-à-dire 650 euros d'impôt sur le revenu en 2016, puis en 2017. Sur les 15 dernières années, il n'a payé que 5 fois des impôts sur le revenu. Lui qui se dit milliardaire et qui s'est toujours vanté d'être très riche, « I am rich, I am very rich, je suis riche, je suis très riche », dit-il à longueur de temps. Eh bien, en réalité, le New York Times confirme ce que l'on soupçonnait depuis des années, Donald Trump est criblé de dettes. Donald Trump a eu plus de succès en se faisant passer pour un mania des affaires plutôt qu'en étant un vrai mania des affaires, dit le New York Times. Alors bien sûr, Donald Trump accuse le New York Times de fake news, fausses informations évidemment, sauf que le journal a en sa possession toutes les preuves nécessaires.
Et puis si les déclarations fiscales de Donald Trump restent toujours une énigme, en revanche, le président américain laissera à coup sûr un héritage. Derrière lui, la nomination de 2 et peut-être 3 conservateurs à la Cour suprême. Le Sénat pourrait en effet avaliser la nomination avant l'élection présidentielle d'Amy Coney Barrett pour remplacer l'iconique Ruth Bader Ginsburg, ce qui, le cas échéant, creuserait clairement à droite et pour plusieurs années la plus haute instance judiciaire du pays. Enfin, toujours aux États-Unis, un juge a bloqué hier la tentative de l'administration Trump d'interdire les téléchargements de l'application TikTok, donnant ainsi au très populaire réseau social, propriété d'un groupe chinois, une victoire à court terme. En clair, ses utilisateurs américains vont continuer de pouvoir télécharger l'application et ses mises à jour, du moins pour l'instant. Le début aujourd'hui d'une semaine importante et même décisive dans la bataille Veolia-Suez. Anne-Laure Jumet, bonjour.
Bonjour.
Vous suivez pour nous les épisodes de ce long feuilleton, un match qui a commencé cet été. Veolia, on le rappelle, veut absorber son rival dans l'eau et les déchets, ce qui passe donc d'abord par le rachat de la participation d'Engie dans Suez. Une offre, Anne-Laure, qui expirera en l'occurrence ce mercredi à minuit.
Oui, c'est maintenant Engie qui a les cartes en main après avoir annoncé fin juillet vouloir se désengager de Suez. Le groupe est prêt à étudier une offre alternative d'ailleurs de Suez, mais pour l'instant on ne voit rien venir de ce côté-là. Suez a besoin, ont dit ses dirigeants la semaine dernière, de quelques semaines pour bâtir une contre-proposition. De son côté, l'État, qui est actionnaire d'Engie, indique par la voix de Bruno Le Maire qu'il ne cédera à aucune pression et prendra tout le temps nécessaire pour que cette opération se fasse sans brutalité, car Veolia, lui, ne veut pas dévier de son calendrier. Seule concession, faite non à Suez mais à Engie, améliorer son offre, alors qu'Engie avait jugé le prix proposé trop bas.
Et pour en savoir plus, vous avez joint ce matin, Anne-Laure, la directrice générale adjointe de Veolia, Estelle Brachlianoff, et vous lui avez notamment demandé des précisions donc sur ce dernier point. Qu'est-ce qui sera donc amélioré précisément ? On écoute sa réponse.
Alors, ce que je peux vous dire, c'est que notre offre, elle est déjà très belle, puisqu'il s'agit de créer un champion français de la transition écologique. Mais nous avons entendu les préoccupations et les questions qui étaient posées, et donc nous allons l'améliorer d'ici le 30. Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire évidemment un prix un peu augmenté, mais aussi des clarifications écrites sur l'emploi, puisque nous garantissons 100% de l'emploi et 100% des acquis sociaux des salariés qui sont repris. Et puis des précisions également sur les équipes de management, puisque notre ambition, c'est de construire ensemble, avec l'ensemble des salariés de Suez, ce beau projet. Et donc l'idée, c'est que les équipes de management soient mixées équitablement.
Alors c'est déjà une partie des engagements qu'avait pris votre PDG Antoine Frérot devant les députés la semaine dernière. Là, ce qu'on attend, c'est finalement une amélioration du prix, hein, répondant à la demande d'Engie qui jugeait le prix proposé trop faible. Est-ce que vous allez augmenter significativement ce prix ?
L'augmentation du prix n'est qu'une des composantes de cette amélioration de l'offre. Je vous l'ai indiqué, nous allons aller plus profondément et de façon plus précise et surtout par écrit sur ces engagements en matière d'emploi qui étaient aussi une des préoccupations que nous a indiqué Engie. Donc le prix n'en est qu'une des composantes.
Alors que Suez a chiffré à 10 000 hein, les destructions d'emplois qui seraient liées à un tel mariage, donc 4 à 5 000 en France, c'est un chiffre que vous récusez totalement.
Oui, c'est un fantasme mensonger, ces destructions d'emplois. Et pour une raison simple, qui est qu'on est en train de parler d'activités de service. Ce sont donc des emplois qui sont non délocalisables. Pour le dire très simplement, ça n'est pas à Bordeaux que l'on va traiter les eaux usées qui arrivent de Perpignan.
Donc vous dites aucun emploi supprimé et des salariés de Suez qui seront reclassés si besoin dans le futur ensemble.
Je crois que c'est même plus que ça. On a l'ambition de créer de l'emploi en France grâce à ce projet de champion de la transition écologique. Donc une garantie sur 100% des emplois, mais ça va au-delà. Donc en gros, pour les salariés de Suez, il n'y a rien à perdre et tout à gagner.
Alors cela dit, Suez considère que ce mariage est hostile. Il a annoncé d'ailleurs mercredi dernier la création d'une fondation pour rendre inaliénable son activité eau en France pendant 4 ans, ce qui met à mal votre projet de rachat, hein, car vous seriez alors en situation de quasi-monopole sur cette activité, sauf à vendre votre propre branche eau. Est-ce que vous avez trouvé la faille ?
Alors cette création de fondation hollandaise, de néerlandaise est regrettable évidemment, mais nos juristes ont travaillé très rapidement et trouvé un certain nombre de solutions. Donc c'est un obstacle qui n'est pas insurmontable et qui ne change rien sur notre détermination de construire ensemble avec les salariés de Suez ce beau projet.
Donc pour dire les choses autrement, vous avez trouvé les moyens de mettre à mal cette fondation, de faire en sorte qu'elle ne soit pas possible.
Il y a différentes options, oui, qui sont possibles pour lever cet obstacle et continuer sur notre projet.
Alors, parlons un petit peu de l'État, hein, également actionnaire d'Engie, on le rappelle, à hauteur de 23,6%. L'État qui aurait aimé que Veolia et Suez se parlent. Vous avez refusé de vous mettre autour d'une même table hier matin à la demande pourtant de Bruno Le Maire. Pourquoi, alors que vous dites que votre offre est amicale ?
Alors notre offre, elle est amicale l'apôtre d'Antoine Frérot, le président directeur général de Veolia, a toujours été ouverte et le reste évidemment pour discuter avec la direction générale et la présidence de Suez. Donc je tenais à le rappeler aujourd'hui. L'ensemble des pouvoirs publics nous ont dit un certain nombre de choses et ont fait état de préoccupations auxquelles nous répondons et nous allons répondre encore plus dans l'offre améliorée qui sera déposée d'ici le 30. Mais je tenais à dire que la seule chose qui n'est pas possible, c'est de changer ce délai à ce stade. Et c'est le calendrier. Tout simplement pourquoi ? Parce que notre offre, elle est amicale, mais plus le temps passe et plus le temps monte.
C'est pour ça que vous avez refusé de vous installer autour de la même table, par crainte de devoir négocier un délai supplémentaire ?
En l'occurrence, oui. L'option de nous demander un délai supplémentaire était la seule chose dont on n'était pas en mesure de discuter, pour les raisons que je viens de vous indiquer. On a 250 000 salariés aujourd'hui chez Suez et chez Veolia qui sont dans l'incertitude et je crois qu'on leur doit de décider maintenant, dans un sens ou dans un autre, et vite.
Alors tout dépend maintenant effectivement d'Engie qui doit, pour que votre projet aboutisse, accepter votre offre de rachat. Si Engie ne donnait pas suite, ça ne changerait rien, dites-vous, à votre volonté de grandir. Mais vous dites aussi que si ce mariage ne se fait pas, on n'aura plus aucun champion français de l'eau et des déchets dans 20 ans. Alors comment sortir de cette équation ?
Ouais, écoutez, après le 30 septembre, si Engie ne nous vendait pas sa participation dans Suez, tout est ouvert et nous avons des idées diverses qui vont de la poursuite de ce projet par d'autres voies, en passant par d'autres projets alternatifs pour construire un champion de la transition écologique.
Voilà, Estelle Braklianoff, directrice générale adjointe de Veolia, jointe au téléphone par vous, Anne-Laure Jumet, merci. Voilà, près d'un an que l'institution phare du cinéma français, les Césars, est en crise, accusée tout à la fois d'opacité d'entre-soi. Ce matin, on a appris qu'un tandem formé de l'ex-patronne d'Arte et du CNC, Véronique Ayla, et du cinéaste Éric Toledano sera l'unique candidat à la présidence de l'Académie. On termine avec un mot rapide du temps pour cet après-midi. Ciel variable de la Normandie à l'Aquitaine et l'ouest de Midi-Pyrénées, du soleil sur le pourtour méditerranéen. Partout ailleurs de la pluie. Quant aux températures, elles afficheront entre 11 et 23 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Paumet. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.